Indéchaîne, bonsoir. 88.4 Radio Galère. 8 heures par jour à trimer pour 2 heures devant la télé à s'oublier. 5 jours par semaine, exploité, parquet, fliqué. Pour 2 jours à consommer, parquet, fliqué. Une année de cadence pour un triste mois de vacances. 41 années de galère pour finir dans la misère à en crever.
La grippe anarchie haineuse, passant de l'un à l'autre, aura raison du désastre à venir. Le capital est grippé, mettons de l'huile sur le feu.
Monsieur a des fourmis dans les jambes. Monsieur Ray, de banque, de pillage. Monsieur pense que les poulets sont devenus une pure vision de l'esprit.
Je nourris des perspectives, nuances.
Ou presque.
3 derniers lundis du mois.
20h-21h. Une émission qui déboîte. Qui sort de la boîte.
Bonsoir. Alors on va commencer par un petit billet d'humeur sur tous les carcans sociaux dans lesquels on peut mettre les femmes.
C'est l'histoire d'une meuf.
C'est l'histoire d'une meuf.
Déshabillez-moi. Déshabillez-moi.
Je lui ai mis la fièvre. Ne la laisse pas pour tomber. Elle est si fragile.
C'est l'histoire d'une femme qu'on a rangée, casée, enfermée.
Passée au peigne fin et au bistouri des catégories.
C'est l'histoire d'une meuf.
Ça pourrait être celle d'un mec ou d'un trave, mais...
C'est l'histoire d'une meuf en colère.
Aujourd'hui, elle ne criera pas plus fort que d'autres.
Non pas qu'elle ne possède pas un bel organe, mais elle a choisi la dérision, qui est une de ses fameuses qualités.
Vers 9-10 ans, elle aurait voulu être un garçon et s'appeler autrement. Après, elle a grandi. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle François.
C'est l'histoire d'une femme qui aime les hommes à femmes. C'est l'histoire d'une femme à homme.
C'est l'histoire d'une femme au foyer qui a le feu au cul.
C'est l'histoire d'un garçon manqué. Elle en a raté quelques-uns, c'est vrai.
C'est l'histoire de la femme totale, sous les projecteurs et mari, boulot, minot en prime.
La femme idéale, sur son piédestal, sans merde.
C'est la sorcière du placard à balai qui ne veut plus faire le ménage.
C'est l'histoire d'une femme libérée.
De cellule en cellule, une femme transférée.
C'est l'histoire d'une femme flic.
Ah non ?
C'est l'histoire d'une bonne sœur qui, hélas, n'a pas eu de frère.
C'est l'histoire d'une femme pas très fatale et de ses amis canons.
Boum !
C'est l'histoire d'une meuf bandante qui braque au fusil à pomper ses messieurs.
C'est l'histoire d'une femme qui fut fatale.
Oups !
C'est l'histoire d'une salope.
Salope !
Elle a jamais compris pourquoi. Et c'est pas parce qu'elle est conne !
C'est l'histoire d'une camionneuse aux attributs généreux qui n'avait pas le permis poids lourd.
Une femme à barbe.
Une femme adultère.
Une fille facile.
Une femme épanouie. Bien baisée.
Qui s'assume, qui gère. Une femme moderne. Indépendante.
Une femme vulgaire. Une femme soumise.
Baisable.
Qu'on encule! Une chic fille, romantique et sensible.
Une fille frigide.
Une fille qui aime le sexe.
Bien roulée, à forte poitrine.
Un ton!
Douce.
Une fille comme il faut et sexuellement active.
Responsable.
Mais tout ça, c'est que des histoires.
C'est que des histoires.
C'est que des histoires.
Pas envie de se raboter les hanches pour entrer dans ces cases et triquer. Pas envie de correspondre. Pas envie de s'enfermer.
Pas envie de correspondre. Pas envie de s'enfermer. Pas envie de se raboter les hanches pour entrer dans ces cases et triquer.
Pas envie de s'auto-réduire.
Pas envie d'être définitivement défini.
Pas envie d'être une expression consacrée.
Pas envie de se soumettre.
Pas envie de se soumettre.
des catcheurs, des boxeurs, des tombeurs. Pour moi, ça, c'est de la petite bière. Tous ces mecs à biceps ne m'ont jamais fait peur. Leur soi-disant combat, c'est du chiquet. Ils passent leur temps à se caresser. S'il y en a dans la salle aujourd'hui qui viennent ici, il sera servi. C'est moi la môme cache-cache. Voyez mes gros biscottos costauds. Avec ça j'ai l'air vache. Et une paire de pectoraux taureaux. J'ai une poigne de fer, un cœur en acier. La gueule en or et les deux pieds nickelés. Je fais les pieds au mur comme un échalant. Le grand écart et je crache à 15 pas. Je bois du gros qui touche. C'est moi la môme cache-cache. Un jour dans une bagarre avec deux affranchis dans le quartier de l'Arsenal, j'ai cogné sans crier gare. Le premier en est mort, l'autre est à l'hôpital. Les flics sont arrivés naturellement. Bien après coup, c'est plus prudent. Ton nom me dit le commissaire au quart. Il y est que toi, pour pas le savoir. C'est moi le môme cache-cache. Voyez mes gros biscottos costauds. Avec ça j'ai l'air vache. Et une paire de pectoraux taureaux. J'ai une poigne de fer, un cœur en acier. La gueule en or et les deux pieds tatoués. Je fais les pieds au mur comme un échalot. Le grand écart et je crache à 15 pas. Je bois du gros qui touche. C'est moi la môme cache-cache. J'ai une poigne de fer, un cœur en acier, la gueule en or et les deux pieds tatoués. Je fais les pieds au mur comme un échalot, le grand écart et je crache à 15 pas. Je bois du gros qui touche, c'est moi la bombe cache-cache.
Voilà, donc on va passer au petit agenda bref comme d'habitude. Il n'y a pas grand-chose si ce n'est dans l'agenda.
En 1989.
Un petit bug. Dans l'agenda, le 5 octobre, il y aura le procès des inculpés suite à la manif du 24 janvier à Barbès, à Paris, qui s'est fait en soutien aux inculpés de terrorisme et d'associations de malfaiteurs. On en avait déjà parlé, il y a eu beaucoup d'arrestations, des procès cet été, mais tout le monde a été relaxé. Et le 5, besoin de beaucoup de soutien, parce que c'est ceux qui sont un peu plus chargés au niveau des accusations. Voilà, le 5 octobre à Paris. Et dans les brèves, le 11 septembre à Zweibrücken, en Allemagne, un ancien centre de rétention qui devait être converti en prison pour personnes âgées, humanisation des prisons oblige, qui est parti en fumée. Voilà, transition avec un appel.
Donc, y a, près de Poitiers, là, il y a la construction d'une nouvelle prison qui va se faire à Vivonne. Donc, une nouvelle prison, c'est-à-dire une prison plus, plus sécurisée. Et donc, il y aura, dans le cadre du transfert des prisonniers, donc de l'ancienne prison qui se trouve à Poitiers à la nouvelle qui se trouve à Vivonne, il y aura un week-end avec une réunion publique sur la prison de Vivonne, un exemple. Ça sera donc le samedi 5 septembre à 17h à la salle Timbaud à la Maison du Peuple dans le centre-ville de Poitiers. Et il y aura aussi un petit rassemblement dans le centre-ville de Poitiers. Et ça, ça sera le 12 septembre, c'est bien ça.
Toujours dans les brèves, le corbeau de l'Hérault a cessé de voler. Il a mal atterri chez les poulets. C'est un chômeur. Il a tout notre soutien. Et comme quoi, ils ont de l'humour chez les chômeurs.
Voilà. Et maintenant, on va vous passer un petit interlude tout au long de l'émission qui est tiré d'extraits de l'émission Basse Intensité sur les Os Cangaceros, qui était un groupe actif dans les années 80 et qui se sont notamment pas mal frités sur le programme des 13 000.
Voilà. Sur les actions attaquant le projet de construction de 13 000 nouvelles places de prison. Les Cangaceros volent les plans des futurs tôles et sabotent de nombreux chantiers, notamment en mélangeant du sucre dans le ciment, ce qui le rend friable. Ils chopperont et tabasseront un architecte pour qu'au lieu de construire des murs, ils les rasent. L'ensemble des actions et des plans volés seront rendus publics dans un document, les 13 000 belles. Il sera largement diffusé de façon autonome dans les zones de futures prisons, tentant de provoquer des réactions hostiles contre l'État.
Lettre envoyée à l'architecte responsable du programme des 13 000. Paris, le 27 février 90. Objet, guet-apens. Bien remis de tes blessures, l'architecte, tu as deviné pourquoi? C'est sans vergogne, sans retenue d'aucune sorte que tu as élaboré, centimètre par centimètre, ces cages où l'on enfermera même des handicapés. Dans les murs que tu as conçus, les individus qui valent mieux que toi se feront régulièrement tabasser. Il est bon que tu aies reçu un avant-goût de ce que des milliers de détenus auront à subir à la puissance supérieure. Sûr, l'architecte, ta corporation n'en est pas à une infamie près. Vu ce que vous construisez pour loger les citoyens normaux, on devine vos compétences pour enfermer des délinquants. On passe facilement des tours du 13e aux cellules des prisons. Salopard, à voir ta trogne de près, nous avons pu constater sur ton visage fatigué combien tu t'impliques à fond dans tes projets. Avant, tu construisais les murs, maintenant, tu vas les raser. Oscar Gaceros. Lettre envoyée à l'entreprise Orsa Béton, responsable d'incessants allers-retours pour livrer le béton sur le site de construction de la future prison de Laon. Le 17 septembre 1990. Objet. Votre passage dans vos locaux à la mi-avril 90. Vous, belle centrale à béton, vous content. Vous construire prison à Laon, nous, fâchés. Nous détruire pupitre de commande informatisée, vous, fâchés. Nous préférer, vous fâchés. Nous content. Oscar Gaceros.
Dans Basse Intensité, nous avons déjà cité à plusieurs reprises le groupe Oscar Gaceros. Nous avons lu des extraits du texte Andrea et celui sur le Marseille des années 80. Ce groupe clandestin, actif en France dans les années 80, tire son nom des bandits sociaux brésiliens de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Les nouveaux Cangaceros, ceux des années 1980, sont eux issus entre autres des Fossoyeurs du Vieux Monde, basés à l'origine à Nice. Les Fossoyeurs publient entre 1977 et le début des années 80 quatre numéros de leur revue, dans laquelle ils explicitent leur vision politique et critique du mouvement révolutionnaire. Les Fossoyeurs, comme plus tard les Cangaceros, menèrent leur offensive par tous les moyens qu'ils étaient capables d'imaginer dans l'édition de textes. Leurs textes sont d'ailleurs signés par des pseudos, clandestinité oblige. On peut y voir une tentative d'articulation entre la dimension collective forte du groupe et les individus qui le composent.
Les Fossoyeurs se définissent eux-mêmes comme des délinquants et non comme militants ou gauchistes. Empruntant le discours et la critique de la quotidienneté des situationnistes, ils se pensent en tant que groupe de marginaux par leur rejet du monde dans lequel ils vivent et leur choix de vie et de survie. Dans leurs textes, ils se reconnaissent dans les formes de délinquance, de révolte et de conflits sociaux indépendants des organisations, partis, syndicats ou avant-garde. Les Fossoyeurs refusent le travail salarié avec pour leitmotiv « ne jamais travailler ». Une affiche de 1980 résume très bien leur approche générale.
Si nous cassons les banques, c'est que nous avons reconnu l'argent comme cause centrale de tous nos malheurs.
Si nous cassons des vitrines, ce n'est pas parce que la vie est chère, mais parce que la marchandise nous empêche de vivre à tout prix.
Si nous cassons des machines, ce n'est pas parce que nous voulons défendre l'emploi, mais attaquer l'esclavage salarié.
Si nous attaquons la salope policière, ce n'est pas pour la faire sortir des facultés, mais pour la faire sortir de notre vie.
Le spectacle a voulu nous voir redoutables.
Nous entendons bien être pire. Si nous cassons les banques, c'est que nous avons reconnu l'argent comme cause centrale de tous nos malheurs.
Si nous cassons des vitrines, ce n'est pas parce que la vie est chère, mais parce que la marchandise nous empêche de vivre à tout prix.
Si nous cassons des machines, ce n'est pas parce que nous voulons défendre l'emploi, mais attaquer l'esclavage salarié.
Si nous attaquons la salope policière, ce n'est pas pour la faire sortir des facultés, mais pour la faire sortir de notre vie.
Le spectacle a voulu nous voir redoutables.
Nous entendons bien être pire.
Bombardieri su Beirut 2, 3, 4 plays. Vive la délinquance, à bas le gauchisme.
Donc vous avez pu entendre cette petite présentation du groupe Os Cangaceros, qui a donc sévi dans les années 80. Et cette présentation, je le rappelle, est en partie tirée de Basse Intensité, qui était une émission de radio qui a sévi sur les ondes de Radio Galère pendant 2 ans. Et si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver leurs émissions sur le site Basse Intensité. Et c'est aussi un site qui vous pouvez réécouter leurs émissions, mais il y a aussi beaucoup de brochures et de textes qui sont en ligne. Et pour continuer, on va vous passer une petite fiche technique de survie dans ce monde de merde, parce que avec la crise et tout ça, ça devient de plus en plus difficile de remplir son caddie. Mais grâce au vol à l'étalage, on peut peut-être essayer de bouffer un peu mieux.
La Chour et son art. Il faut le prendre non pas comme un modèle, mais plus comme une contribution à la technique du vol. Afin de pouvoir voler de façon constante, retourner plusieurs fois dans le même commerce, il convient pour nous, pauvres gens, de se posticher et pas en Robin des Bois ou en Frère Dalton. Plus on a l'air d'un bourgeois respectable ou d'un citoyen modèle, moins les vigiles ou l'œil de la caméra feront attention à vous. Être clean et passer inaperçu, voilà une bonne base pour dépouiller à l'étalage. Quant au contenant du larcin, il vaut mieux privilégier une veste plutôt qu'un sac qui reste un des paramètres de suspicion aux yeux des chiens de garde de la marchandise, même s'il s'avère parfois nécessaire pour pécho des choses plus volumineuses ou pour opérer pendant les saisons où un blouson te donnera l'air d'un con. Pour les périodes hivernales, une veste de style 3/4 maximisera la taille des poches intérieures. Prévoir à cet effet du tissu solide et des élastiques afin d'éviter un affaissement de la poche chargée. Ne pas hésiter à étendre celle-ci vers l'arrière du blouson, pour pouvoir y glisser des 33 tours par exemple. Une fois le magot choisi, toujours capter en entrant les positions ennemies et leurs moyens logistiques. N'oubliez pas que les portillons peuvent se trouver en hauteur. Dans le cas d'une grande surface, repérez la zone où va s'opérer le méfait et estimez la faisabilité du projet, tout en restant relativement loin pour ne pas attirer l'attention sur vos intentions. Rester discret dans son approche tactique reste un leitmotiv des voleurs et voleuses récidivistes. Si l'angle des racames le permet, il est préférable de charger l'objet convoité à l'endroit où il se trouve, plutôt que de se le trimballer dans le magasin en risquant de croiser un chauffeur, un vigile en civil, qui souvent mate ce que contient votre panier ou caddie. D'ailleurs, il vaut mieux éviter de croiser le regard de la caméra ou celui de cet abruti de vigile, tout en sachant leur position. Vu sans être vu, retournez l'arme panoptique contre eux. Il faut repérer les angles morts, voire charger dos à l'ennemi en minimisant un maximum les gestes. Limitez tant que possible les mouvements des épaules et des bras et se concentrer sur les mains en se servant de votre buste comme écran. Ainsi, tu peux blinder tes poches, la malice dans les yeux et avoir le sourire pour la caissière. Concernant les bips, les parades sont nombreuses. Du décollage enfantin des autocollants en passant par la petite pince à la mâchoire fine et pointue qui permet de se glisser entre les deux parties des bips en plastique gris que l'on trouve généralement sur les fringues et de couper la tige métallique. Plus perfectionné que la pince, le sac ou la poche anti-bip confectionné en feuille de plomb ou en plaque d'imprimerie. Par contre, il faut se méfier des bips qui sont installés dans l'emballage du produit à la fabrication. Comme par exemple, entre autres, la viande Charal, le Bastis 51 ou voire même le Calva Père Magloire, qui est malheureusement bipé souvent à la fabrication. Donc le bip se trouve dessous l'étiquette. Bon, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas l'enlever. Il y a aussi certains produits d'églus, genre foie gras ou saumon, ce genre de trucs qui peuvent être bipés à l'emballage. Et aussi pas mal de produits de bricolage. Voilà, ça c'était un petit témoignage. Après, il faut savoir que si le vol à l'étalage, dans l'ensemble, même si ça commence à se corser d'un point de vue juridique, ça reste encore assez tranquille, sauf dans des cas où de grosses sommes ou des plans multirécidivistes. Mais bon, en général, ça dépasse assez rarement le procès verbal. Voilà, bon, maintenant aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que avec l'ADN, là, par exemple, pour les vols à l'étalage, ils demandent ou ils exigent le prélèvement ADN qu'on peut refuser, on le rappelle.
Donc voilà, c'était la petite fiche V du vol à l'étalage. Et oui, parce que là, ça devient quand même un peu plus la galère de remplir son caddie. Mais bon, il paraît que, selon les journaux, il paraît que nous sommes sortis de la crise. Ouais. Une sortie de crise peut-être, mais pour qui ? Parce que bon, ce qu'on constate, c'est que ben, les salariés doivent encore plus bosser, les chômeurs sont de plus en plus contrôlés, traqués, radiés, et les RSistes, pareil. Bref, de plus en plus de galères, de plus en plus de pression pour ceux qui n'ont comme seul moyen pour survivre que de vendre et revendre leur force de travail. Par contre, les autres, c'est-à-dire ceux qui se gavent sur la sueur de ceux qu'ils embauchent, eh ben pour cela, ça a l'air quand même d'aller mieux. Hein, parce qu'on voit, les chiffres du CAC 40, ben, eux connaissent une remontée fulgurante. Et oui, comme toujours, une crise, ben, c'est l'occasion pour les patrons de réorganiser l'esclavage salarial, de le réagencer et de trouver de nouveaux moyens pour se faire plus de blé. Mais une crise, ben, c'est aussi l'occasion pour ceux qui se font baiser la gueule de relever un peu la tête et de rendre des coups. Cette année, la conflictualité aura été plus tendue. Des gestes ont circulé aussi vite que les capitaux, notamment des séquestrations de patrons, des occupations d'usines, des destructions, des blocages. Et aussi la multiplication d'une forme de lutte qui était un peu tombée dans l'oubli. Je parle des autoréductions qui se sont beaucoup faites dans le cadre des luttes étudiantes, dans le cadre de luttes de précaires. Alors là, l'idée, c'est pas de présenter les autoréductions comme la solution miracle, mais l'idée, c'est de se réapproprier ce que le capitalisme nous vole. Alors une autoréduction, c'est quoi ? Alors ce sont des pratiques collectives qui prennent des formes variées, avec comme idée principale satisfaire nos besoins de manière gratuite ou moins chère dans une démarche collective. Alors parfois, ces actions sont aussi nommées réquisitions. Ça passe par le non-paiement des loyers, des factures d'électricité, de téléphone ou de gaz au vol dans les supermarchés. Bref, récupérer un peu en attendant de tout récupérer. Dans les autoréductions, dans les supermarchés, ça consiste à arriver à plusieurs, remplir les caddies de toutes les choses qu'on ne peut pas se payer d'habitude et de partir sans payer. Ça peut se faire sous deux formes, soit en négociant avec la direction, soit sans négociation. Alors les autoréductions sont connues un développement important dans l'Italie des années 60-70, qui était une période d'intense lutte sociale, qui ont largement débordé le strict cadre du lieu de travail. Alors à cette époque, il y avait des quartiers entiers de Rome, Turin, Milan, qui étaient squattés, avec des dizaines de milliers de personnes qui recalculaient leurs factures de gaz et d'électricité en s'appliquant le tarif réservé aux grandes entreprises, ou ne payaient pas du tout leurs factures sans risquer de se faire couper parce qu'il y avait une forte solidarité, une forte réactivité et une forte organisation collective. Et en France, c'est surtout pendant le mouvement des chômeurs pendant les années 90 que cette action s'est perpétuée. Les chômeurs envahissaient les supermarchés et menaçaient la direction pour emporter les marchandises. Après une accalmie dans la pratique de ces actions, il y a eu un regain d'intérêt avec la crise en 2008. Et il y en a une, notamment d'autoréduction en 2008, là, qui était assez marrante. C'était pendant un camp climat. C'était un camp contre la construction d'un aéroport près de Nantes. Et donc cette autoréduction s'est faite sans négociation. On ne négocie pas la sortie des caddies. On entre dans le magasin à plusieurs masqués pour ne pas être reconnu par les caméras. On se serre, on tient les vigiles à distance avec des barres de fer et on se casse sans arrestation. Bravo.
Bravo, bravo. Donc, pour illustrer ces autoréductions de manière un peu ludique, on va dire, on va vous passer un enregistrement d'une pièce de théâtre qui a été faite, enfin, du début et de la fin de la pièce de théâtre, qui s'appelle Faut pas payer, qui a été écrite par un monsieur qui s'appelle Dario Fo, qui est un dramaturge italien qui est né dans les années 20. Et donc, Faut pas payer, c'est une pièce qui se situe dans l'Italie des années 70, donc à Milan. Alors, à l'époque, il faut savoir qu'au programme, c'était délocalisation, chômage, hausse du prix des logements, expulsion, tout ça. Je sais pas si ça vous rappelle des choses. Enfin, ça n'a pas beaucoup changé, quoi. Donc, la pièce, c'est l'histoire d'ouvrières exaspérées par la hausse des prix, qui décident l'autoréduction de ces prix et qui finissent même par dévaliser leur supermarché habituel. Leurs maris ne l'entendent pas de cette oreille, et encore moins la police. Donc vous allez entendre une lecture du début de la pièce ainsi que de la fin, passage qui présente l'autoréduction et ses motivations.
Décor, un modeste appartement d'ouvrier, Une table au centre, un lit et une armoire sur le côté. Un bahut, un frigidaire, une cuisinière à gaz et tout près, un chalumeau à souder avec deux bouteilles de gaz. Antonia entre, suivie de deux femmes plus jeunes, Margherita et Marcella. Elles portent des sacs à provisions qui débordent et plusieurs sacs en plastique bourrés de marchandises. Elle les pose sur la table.
C'est une chance qu'on t'ait rencontrée. Je ne sais vraiment pas comment on aurait fait pour transporter tout ça.
Je voudrais bien savoir où tu as trouvé l'argent pour l'acheter tout ça.
Bah, je l'ai gagné, je t'ai dit, avec des timbres prime. Et puis, dans un grand paquet de lessive, j'ai trouvé une pièce d'or, grosse comme ça, avec le profil du pape.
Une pièce d'or? Ouais, à d'autres.
Tu me crois pas?
Non.
Faut qu'on cherche autre chose. Où vas-tu?
Au revoir.
Attends, on va te le dire.
Ferme la porte.
Bon, racontez.
Ce matin, je descends faire mes courses. C'était le jour de la vente sauvage.
La vente par les militants.
Rien qu'en pensant à tout ce que j'allais pouvoir acheter avec le peu d'argent qu'il me restait, j'en avais l'eau à la bouche.
On n'était pas les seuls, il y avait toutes les femmes du quartier.
1000, 2000,
je sais pas, une marée de femmes.
Quand tout à coup, les flics, la police des marchés.
C'est interdit, ils font. C'est interdit, réquisition.
Toute cette marchandise du bon Dieu qui nous passe sous le nez, ça nous a mis dans une rage. On a vu rouge.
Ah, c'est comme ça, ils nous prennent tout. Eh bien, on va au supermarché et on les oblige à nous faire les mêmes prix que les militants.
Nous allons en cortège au supermarché. On entre?
Le gérant, vous êtes folle. Ce n'est pas moi qu'il faut vous en prendre. C'est la direction qui décide les rabais.
Et les augmentations qui les décident? Mais la direction, bien sûr. Le commerce est libre, non? La concurrence aussi.
La libre concurrence contre nous, oui. C'est la bourse ou la vie et nous devrons laisser faire. Vous êtes des bandits, j'ai crié. Après, je me suis cachée.
Bravo!
Alors, il y en a une qui a dit: cette fois, ça suffit. Vous allez faire les mêmes prix que les militants. Et n'essayez pas de montrer les dents, sans quoi on part sans payer la queue d'un sou.
Tu aurais vu le gérant, il était vert. Vous êtes folle! J'appelle la police! Il est allé au téléphone de la caisse. Il a décroché le récepteur. Malheureusement, le téléphone ne marchait pas. Quelqu'un avait l'idée de couper les fils. Laissez-moi passer. Je veux aller dans mon bureau.
Et nous, on serrait les rangs pour l'empêcher de passer. Et lui, ben, il commence à pousser. Il y a une femme qui fait semblant d'attraper un coup de poing dans le ventre. Elle se laisse tomber par terre de tout son long, évanouie. Avec un naturel.
C'était une artiste, celle-là.
Et il y avait une grosse dondon, terrible, une femme âgée. Elle a levé un doigt, on aurait dit un fusil, et elle l'a pointé entre les yeux du gérant. Lâche! Elle lui fait: tu t'en prends une pauvre femme qui est peut-être enceinte. Si elle perd son gosse, tu vas voir. On va te mettre en tôle, assassin.
Et nous en cœur, infanticide.
On était pliés en deux de rire.
Et pour finir...
Pour finir, ce ballot de gérant a fait ce qu'on lui a dit de faire. Il a mis la marchandise au même prix que les militants.
Ah, faut avouer que certaines ont un peu exagéré. Il y en a une qui a exigé qu'on lui fasse crédit.
Oh,
au supermarché, on n'a jamais vu ça.
Elle disait... Ah ça non, je ne vous dirai pas comment je m'appelle. Vous seriez capable de me dénoncer, monsieur le gérant. Fiez-vous à la confiance. La confiance est l'âme du commerce. C'est bien comme ça que vous dites. Alors, au revoir, monsieur, et bonne confiance.
Et tout à coup, la police.
Oh non.
C'était une fausse alerte. Heureusement, mais on a tout détalé.
Il y en avait qui lâchaient leur paquet, et d'autres, ben, qui se mettaient à pleurer.
Du calme. Ça, c'était des ouvriers qui arrivaient de l'usine d'à côté. Et qu'est-ce qui vous prend? Vous avez la colique à l'idée que les fruits arrivent? Vous êtes dans votre droit. Vous réclamez de payer le juste prix. C'est comme une grève. C'est même mieux qu'une grève. Parce que les grèves, ça fait perdre leur salaire aux ouvriers. Tandis que pour une fois, c'est seulement les patrons qui perdent, bon Dieu. Il y a même mieux à faire. Faut pas payer.
Comment? On a dit... Faut pas payer?
On était un peu excités. Ne pas payer. On avait déjà payé.
Vous allez voir comment on fait. Ils se précipitent aux étalages, ils prennent la marchandise, ils la mettent dans les sacs du supermarché, ils interpellent le gérant, qui était toujours aussi vert, et qui avait même rapetissé.
Ça compensera tout le fric que vous nous avez volé depuis le temps qu'on vient faire nos courses chez vous.
Et ils continuent à prendre de la marchandise plein les bras. Et moi j'ai réfléchi, j'ai pensé très fort, j'ai hésité un peu. Puis j'ai recommencé mon marché. La femme évanouie et aussitôt elle est revenue à elle. On paie plus, on paie plus.
Et tout le monde, on paie plus, on paie plus.
On aurait dit la prise de Rome.
Entre temps, la police, la vraie est arrivée pour de bon.
Une marée de flics.
J'avais le cœur prêt à éclater, nos jambes qui tremblaient, nos sacs qui tremblaient avec nous, mais il n'y en a pas une qui est flanchée. À un moment, sur un signe des ouvriers, nous sommes sortis du supermarché avec un air si décidé, avec des mines si honnêtes, on aurait cru des ministres qu'on vient de prendre la main dans le sac. On est passé entre les ouvriers qui avaient formé des cordons pour qu'on arrive tranquillement jusqu'au tram.
C'est merveilleux.
Merveilleux. C'est pas dire. C'était enthousiasmant. Pas parce que on a emporté de la marchandise sans payer.
En vérité, c'était aussi un peu pour ça.
Oui, mais surtout parce qu'on l'a fait tous ensemble. Quelque chose de juste. Des hommes et des femmes.
Contre les patrons.
Ils seront bien obligés d'en tenir compte, ces voleurs, d'une opération de ce genre.
Et tu as vu, dans certains supermarchés, il y a déjà des lots vendus sans bénéfice.
J'ai vu, oui. Vous avez eu raison de faire baisser les prix, naturellement. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu vas raconter à ton mari? Tu vas pas lui faire le coup d'éteindre en prime?
Il marchera pas.
À mon avis, non.
Bah, c'est peut-être un peu gros, mais l'ennui, c'est qu'avec son légalisme, Giovanni va me faire une scène. Oh, de toute façon, je suis dans le pétrin. C'est la fin du mois, le peu d'argent que j'avais, je l'ai dépensé pour le marché supplémentaire. Il me reste le gaz à payer, l'électricité à payer, le loyer, n'en parlons pas. Il y a au moins 4 mois que je le paie plus.
Tu sais, moi non plus, j'ai plus d'argent. Ça fait 5 mois que je paie pas le loyer. Et moi, j'ai même pas réussi à faire des provisions comme vous.
C'est facile à arranger, tu vas emporter un peu chez toi.
Oh non, 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 non.
Mais si, voyons.
Mais je vous en prie, non, Antonia, j'en veux pas. J'ai pas un sou pour vous payer.
Bah, si tu n'as pas un sou pour nous payer, alors mais... Tu es idiote.
Mais...
Tu voudrais? Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux faire mes courses à l'œil et je revends la marchandise. Pour qui me prends-tu? Pour Agnelli? Emporte ça chez toi.
Mais qu'est-ce que je vais dire à mon mari? C'est de la marchandise à moitié volée, mais il va me tuer.
Ah, Giovanni, lui, ne me tuera pas. Non, parce que ce n'est pas légal. Il va me ressortir l'honneur sans tâche de sa famille. Ah, je crois l'entendre. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as déshonoré. J'ai toujours payé jusqu'au dernier centime. Bordre, mais honnête. Il va se monter et s'enfermer dans l'armoire.
Non.
Non.
Bah si. Bah à chaque fois que nous avons une scène, il s'enferme. Oh ben, il est bien organisé. Sa petite lampe, son tabouret, son livre. Bon, il ouvre que pour m'injurier. Hein. Ah. Je veux pouvoir marcher la tête haute, mon nom.
Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce qu'on a pris? Viande? Mélange de viande pour chien et chat?
Homogénéisé, goût d'hiver.
Nom d'un chien.
Mais pourquoi t'as pris ça?
Bah, j'en sais rien. Dans la pagaille, j'ai du... graines de millet pour canari.
Du millet?
Heureusement que je n'ai rien payé, sinon je me cognerais la tête. Tête de lapin surgelée.
Des têtes de lapin?
Tu savais qu'on surgelait des têtes de lapin?
Ah!
Pour enrichir la pâtée de vos poules. 5 têtes de lapin pour 200 lire, pas cher. Je peux même pas aller les échanger. On va me reconnaître et m'arrêter. Ah, c'est vous qui payez plus.
Mais c'est ça, tu voudrais que j'emporte?
Les têtes de lapin, non. J'y tiens, c'est une rareté. Emporte les choses courantes, le riz, les pâtes, l'huile, le beurre.
Allez, va vite, rentre chez toi. T'as largement le temps de tout cacher. Ton mari, il travaille dans l'équipe de nuit. Dépêche-toi.
Ouais, mais si la police, elle vient fouiller maison par maison.
Bah... Ne dis pas de bêtises, il y avait tout le quartier au supermarché, ça fait 10 000 familles.
Fouiller maison par maison, ouais, t'imagines? Ils en auraient jusqu'à Pâques de l'an. Oh, Giovanni, mon mari arrive. Mais où est-ce que je vais que... Prends ça sous ton manteau.
Le lendemain, après les fouilles et les saisies des marchandises par les flics.
T'as enfin compris ?
Bien sûr, j'ai compris. J'ai compris qu'il faut changer de musique. Fini les sourires. La seule chose qui atteigne les exploiteurs, c'est de leur reprendre ce qu'ils ont volé.
Les ouvriers le disaient hier au supermarché. C'est une nouvelle forme de grève. Une grève où les patrons sont les seuls à payer.
Les patrons sont pas de la race qu'on peut traiter par douceur.
Sûrement pas. Les patrons, on peut pas leur dire « Pardon, poussez-vous un peu, laissez-nous un peu d'air. Soyez gentils, soyez compréhensifs, mettons-nous d'accord. » Non, pour les faire réfléchir, il faut les foutre aux chiottes et tirer la chasse d'eau. Alors oui, le monde serait beau. Il y aurait sans doute moins de vitrines illuminées, moins d'autoroutes. Mais il y aurait pas non plus toutes ces manigances de couloirs. Moins de voleurs aussi. Je parle des vrais, les petits, les ventrus, les bossus et les emplumés. Un monde avec une vraie justice, où ceux qui ont tiré la charrette pour les autres commenceraient à la tirer pour eux.
Chaîne, salut, Oskongaseros, deuxième interlude.
Fin mars 1982, un squat s'ouvre rue de l'Est dans le 20e arrondissement de Paris. Pour cette action, les nouveaux squatteurs proches des fossoyeurs entendent rompre et critiquer le discours politique autour des occupations de locaux vides. En effet, ils décident d'ouvrir un bâtiment neuf encore partiellement habité. Pour eux, le squat doit être une expropriation. Ils se barricadent et décrètent la rue interdite aux flics. Les accès à la rue sont bloqués et les flics chassés. Ils seront expulsés en octobre de la même année après une forte résistance. Extrait de la revue Les Fossoyeurs datant de mai 83. Du moment que nous ouvrons un territoire, ne serait-ce que quelques portions d'immeubles et sur l'espace de quelques squats localisés au nord du 20e, à la rencontre, à la dépense, à la liesse publique, nous sommes amenés à déborder et vient alors tôt ou tard l'instant où on ne peut plus y durer. À l'Est, nous n'avons pas été expulsés au terme d'une procédure juridique, mais sur décision politique du parquet pour trouble à l'ordre public. Environ 50 plaintes avaient été centralisées, au point que le ministère de l'Intérieur avait été personnellement saisi de cette affaire
et cet instant concentre toute la question sociale du territoire. Certes, territorialement, les prolétaires finissent inévitablement par perdre face au potentiel militaire et judiciaire de l'ennemi. Jamais ils ne possèdent le terrain durablement. S'ils pouvaient occuper une place et y durer, c'est qu'ils n'y feraient aucun bruit, aucun scandale. Mais ceux qui platement nous donnent perdu d'avance dans l'affrontement avec les forces de l'ordre sont des têtes de mort. L'affrontement lui-même fait partie de la fête.
En 1985, des émeutes et des révoltes éclatent dans les prisons françaises. Afin de briser le silence autour de la lutte des prisonniers, de multiples actions sont réalisées. Blocage de voies ferrées, sabotage d'installations ferroviaires, saccage d'imprimeries, blocage de deux lignes de métro parisiens, incendie de voitures et dégradation de véhicules du Tour de France. Dans le numéro 2 de Os Cangaceros, paru en novembre 1985, un long article retrace la lutte des prisonniers et la liste des actions de solidarité menées par Os Cangaceros. Nos moyens d'action sont ceux qu'utilisent n'importe quel prolétaire, sabotage et vandalisme. Nous ne faisons pas d'actions symboliques, mais nous créons le désordre. Comme savent le faire couramment des ouvriers en lutte qui barrent des routes ou des chemins de fer, sabotent du matériel, des relais télé, etc. Toujours dans le numéro 2 de la revue, un chapitre des notes éditoriales intitulé « Nous, Os Cangaceros » apporte des précisions. La manière dont a été rédigé cet édito est révélatrice d'un certain état d'esprit des Cangaceros. Ces notes ont été prises suite à une discussion collective, après laquelle les réponses spontanées aux questions posées sont retranscrites telles quelles. Extrait.
Nous parlons beaucoup de la violence dans les banlieues. Toutefois, nous ne pensons pas qu'il n'y ait que là qu'il se passe quelque chose. Seulement, beaucoup de nos semblables y vivent, et souvent nous-mêmes. Nous ne faisons pas que parler de la violence. C'est notre élément, et même, peut-on dire, notre lot quotidien. La violence est d'abord celle des conditions qui nous sont faites, celle des gens qui les défendent, et plus rarement, hélas, celle que nous leur renvoyons à la gueule. Nous ne connaissons pas tous nos ennemis, mais on connaît ceux qu'ils défendent. Tous nos alliés ne sont pas forcément nos complices.
Donc on rappellera quand même que c'est des choses qui ont été tirées d'une émission donc, qui était sur Radio Galère Bassin Densité. Donc si vous voulez écouter entièrement ce petit poiret, il est toujours sur Internet. Et donc moi je vais essayer de vous parler en reprenant un texte qui est sorti dans une revue qui s'appelle « À corps perdu », qui est donc une revue qui se déclare anarchiste et qui parle plus ou moins de l'autonomie, qui était donc un peu dans le sujet et qui fera peut-être office de conclusion. Donc voilà, l'évolution historique du capitalisme et de la domination en général a éliminé progressivement toutes les formes
ou possibilité existante d'autonomie, d'indépendance, d'autosuffisance. On ne peut plus parler vraiment d'un en dehors du capital ou un en dehors des rapports sociaux existants, ou même de parler d'un endroit que la saleté de ce monde n'aurait pas atteint. Au niveau physique, tout l'environnement est empoisonné et modifié selon les besoins de l'économie capitaliste. Comment pourrait-on s'imaginer un ailleurs alors que les semences OGM sont désormais partout, quand l'éradiation n'épargne personne? Mais de plus, comment pourrait-on ignorer l'existence des prisons, des centres, des usines et des institutions de ce monde? Car la liberté pour laquelle nous nous battons est la possibilité toujours plus étendue de nous réaliser, de nous affirmer en tant qu'individus. La domination et le capitalisme sont tout d'abord un ensemble de rapports sociaux. Mieux, c'est le rapport social, et non quelque chose d'imposé de l'extérieur. Le système n'est pas seulement fait de maîtres corrompus qui nous maintiennent sous leurs joues par le biais de la matraque, mais il est aussi peut-être et même surtout fait du mécanisme social auquel participe chacun. En ce sens, les temps loués savoir-faire d'avant le saccage par le capital, le passé si bien, étaient profondément liés aux rapports sociaux existants. Pareil, si l'on prend l'exemple de l'économie agricole, cette économie agricole d'avant la colonisation du capital, elle ne reposait pas sur un rapport différent à la terre uniquement. Ces mêmes paysans pouvaient aussi exploiter leurs propres enfants dans les champs. Le contrôle social à l'intérieur d'un village, petit village rural, fut aussi parfois tellement fort que l'affirmation de l'individu se heurtait directement à l'autorité des vieux, des prêtres, de la coutume, du patriarcat. Ben, il se trouve qu'à travers l'histoire, beaucoup ont cru qu'il était possible de construire d'autres rapports sociaux en se tenant un peu à l'écart. Alors autrefois, oui, peut-être, il était certainement plus facile d'y croire quand il existait encore des montagnes inexpugnables, des forêts gigantesques, quand il suffisait de traverser les barrières naturelles pour déserter. Ici, maintenant, alors il faudrait se contenter d'un bâtiment pourri au milieu d'une quelconque métropole, d'une ferme à côté d'une centrale nucléaire, d'une vallée traversée par des TGV, d'un endroit entouré d'arbres, mais avec un satellite GPS au-dessus de la tête. La progression du capital a rendu impossible tout dehors, tout extérieur. Et pas seulement sur le plan matériel, mais de plus en plus dans les cerveaux et dans les cœurs. Le capital est bien en marche, et bien en marche pour nous vendre la liberté comme possession de marchandises, bien en marche pour faire de la solidarité une délation, la fraternité comme une guerre. La question principale n'est pas alors dans les formes perdues, mais dans les contenus perdus. Alors peut-être, pensons, il n'y a plus de dehors, il n'y a plus d'endroit matériel ou mental où l'on ne se sente l'haleine chaude de la domination du capital. Alors pourquoi pas ne pas vouloir construire un en dehors? Parce qu'on pense simplement que cet en dehors n'existe rien d'autre que la subversion. Une analyse de la domination actuelle met en évidence qu'il est désormais impossible de se retirer, de partir, de se mettre à l'écart. Si en plus, il est impossible de nier que nous portons aussi en nous les tares de notre éducation, des mécanismes autoritaires, et alors devient la limite d'une affirmation religieuse. Ce n'est pas l'individu détaché, mais l'individu tel qu'il est, que nous prenons pour point de départ, pour partir à l'assaut de ce monde. Dans nos révoltes, nous sommes tous traversés par des contradictions liées au fait de vivre dans une société que nous voulons balayer. Alors oui, il ne nous reste que la révolte, dans toutes ses formes, au sein de laquelle pourraient naître peut-être des rapports nouveaux tant désirés. Encore, cette société se base entre autres sur l'argent, et il faut donc de l'argent pour y survivre. Et la croyance selon laquelle on pourrait déjà s'y soustraire est une illusion. Ou alors encore une autre proposition serait de vivre sans argent, en vagabond. C'est une possibilité, mais qui ne peut prétendre être en dehors du capital et de ses relations. Tout comme le vol n'est pas une solution pour ne pas reproduire la circulation des marchandises. De plus, ces deux propositions restent très particulières. Les propositions révolutionnaires doivent forcément tendre vers l'universel, être des propositions invitant tout le monde. Tout le monde peut trouver des manières pour exprimer sa révolte, aussi minimale soit-elle. Car il ne s'agit pas du comment elles s'expriment, mais du contenu qu'elles expriment. Et ou encore, tenter de ressusciter les rapports sociaux de jadis est simplement impossible. La destruction par le capital n'est pas réversible. On ne peut pas juste annuler la radiation radioactive. Une fois perdu, c'est perdu pour toujours. Alors serait-ce une raison pour se mettre à pleurer? Rien n'est possible. Non. Ce constat nous oblige seulement à être les deux pieds dans la réalité, d'ici et de maintenant, et à imaginer quelque chose de nouveau à partir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors, impossible de connaître le goût de la liberté à l'ombre de l'État, de l'Église et du capital. Donc, la seule liberté à savourer maintenant se trouve dans la révolte contre l'existant, dans la construction de quelque chose de nouveau. La société nouvelle se fondera que sur les ruines de ce vieux monde. Il n'y a dans tout ce qui a précédé aucune intention de nier à qui que ce soit le désir de vouloir bien vivre mieux
et de s'en donner les moyens. Bien sûr, les carottes du potager, elles ont meilleur goût que celles du supermarché. Bien sûr, certains préfèrent pouvoir se promener encore un peu dans la nature au lieu de devoir parcourir les métropoles énormes en métro. Mais alors on parle de toute autre chose. Alors on parle des choix individuels que chacun fait dans sa vie, selon les possibilités que la société offre encore de survivre mieux. Mais tout ça, c'est pas la raison. Parce que, or, il ne s'agit pas de se battre pour mieux vivre, mais pour vivre. Et ceci n'est possible que par la destruction nécessaire de tout ce qui est pourri dans ce monde. Ce combat n'est pas pour demain, mais quotidien. Et c'est seulement là que ma vie contient déjà les germes de l'avenir pour lequel je me bats. Tout doit disparaître, mais le vent nous portera.
J'ai la dalle comme un prénom peine à la conquête de l'euro, la débrouillardise, la tise, la maîtrise, mon art, connard, faut que tu te résignes. On vous blesse, c'est la VS, c'est bim bim, sur le rythme, c'est Rimka, c'est bim bim, vous y est, par la résine, les femmes, les flags, accro du football, Madine, Brésil, je réside en 9-4, je vous y est, ouais, c'est bim bim, j'ai la dalle comme si je chantais Paul, vous y est, et on sent, sans se mettre, tu me débolites. Tu envoies chaîne, ma cachette, mec, c'est bim bim. J'suis venu de frat comme le soir d'un pride. C'est du rap free fight que j'pratique, du rap line. J'tombe dans le jeu du regard en feu rouge. Fast, furious, premier coup de plaie, j'te pin, c'est bim bim. Ma parapet, j'ai volé mon pote. Trop de voyous, mètre carré, 30, j'vais être une star. Eh non, tu te trompes, c'est ton temps la découpe. Comme le réel, j'fais des coupes. Comme un S où j'mets des coups. J'fume des clubs, aromatisé, chi. Tu veux un scoop, j'vais traumatiser. Arroser ça au champ, au gin. Reste fidèle à moi-même, Air Max G. Sans teinture jaune, moi, c'est un ogive. J'rime comme j'ai envie. J'ose, road, sans garde du corps, au mec. Barack, vive pas comme les robots pop star au starac. Personne bronche ou on le couche. Mon devideur du palazzo si je parle mal. Ou à ceux du pain douche. Un peu tous for life. Un peu tous pure souche. On vous plaît, c'est la VS. C'est bim bim sur le rythme, c'est Rimka. C'est bim bim, bousillé par la résine. Les femmes, les flags, accro du football. Madine, Brésil, je réside en 9-4. Je bousillé, ouais. C'est bim bim, j'ai la dalle comme si je sortais de pôle. Bousillé, et on sent sans se mettre, tu es poli. De recul en voix, j'aime la cachette, mec, c'est bim bim.
Prends mon arrivée comme. Comme un coup de feu, vol de marbre.
Je viens de la rue, pas du cours Florent. Je dors H24, même quand il pleut à torrent. T'es au courant, j'ai pas le corps, t'as trop de piercing. Ni de rafales dans le ventre. Je suis pas les anciens, les piliers de ma vie, les coups. Je coude Rimkou, c'est de la pro, c'est une douce. Cassos, casse assiette, casse couille, réunion, casse tout ton cou, ton cul. Depuis les premiers pays, elle rentre, t'es les trous. Et maintenant on est connus, on a des thunes, des armes, des connaissances. Lille Mike avec aisance. Toujours acte de présence sur le béton, ouais, gros, c'est tonton. Pas un sosie, j'ai comme effigie, de la sconque, un blunt et un fusil. Sans complot, gosse. De feuille, club, je suis avec mes raps, sous et mes bracos. 9-4 night club, y'a aucune crème. On a le putain de matos, les lyrics pleuvent. On retombe pas notre stuff. 9-4, 9-4, série noire comme un calabre. C'est une drôle d'école, remballe. On te défonce comme la Zamal, on te l'enfonce comme un Zamel. T'as mal, hein man. On vous plaît, c'est la VS. C'est bim bim sur le rythme, c'est Rimka. C'est bim bim, vous y est par la résine. Les femmes, les flags, accro du football. Madine, Brésil, je réside en 9-4, je vous y est, ouais. C'est bim bim, j'ai la dalle comme si je chantais de pôle. Vous y est, et on sent centimètre, tu es poli. De recul, on voit chaîne, la gâchette, mec, c'est bim bim.
Prends mon arrivée, comme un coup de feu. De marre la VS, c'est bim bim.
Eh, hey, gros, envoie les euros, les dollars ou les livres sterling. C'est bim bim, c'est la BS mec, on vous blesse. Sors ton blocos. J'suis avec mes rapsous et mes blacos. 9-4, Nézik, Kamik Groot. Sur le Rédit, c'est Rika. Vous y est, par la résine, les femmes, les flags, accro du football. M'a dit Brésil, j'réside en 9-4, j'vous y est, ouais. J'ai la dalle comme si j'sortais de pôle. Vous y est, gros. 100 cm, j'suis déboli. Tu envoies chaîne, la gâchette, mec, c'est bim bim. Bim bim. Bim bim.
On va faire un tour, hein, là.
Ouais, c'est parti.
De bruit et de fureur.
Vous plaisantez, j'espère. La violence dans les conflits sociaux ont donc franchi un nouveau cap cet après-midi.
Dans la foulée, 250 à 300 d'entre eux ont investi la sous-préfecture de Compiègne. Des bureaux ont été dévastés.
Voilà, Radio ND Chaîne 88.4, une nouvelle émission.
À la semaine prochaine.
Donc à lundi prochain. Et dans ce monde de malades, la grippe anarchie haineuse, passant de l'un à l'autre, aura raison du désastre. À venir. Le capital est grippé, mettons de l'huile sur le feu, qu'il tousse à s'en étouffer. Et que crève le capital.
L'État tremble quand les militants deviennent des délinquants.
Nique tout.
Cette fois, c'est le bureau d'accueil de l'usine qui est mis à sac. Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences?
Un acte dangereux, non pas quand il est répréhensible, mais quand il est reproductible.
En dehors de l'application de la loi, je serai donc sans pitié.
Ce qui est une première, c'est l'utilisation d'armes de guerre contre des policiers après une interpellation.
Je viens 100%. Laissez-moi aller à la réunion.
On veut du concret.
Attendez, laisse-moi causer un peu.
Si vous parlez comme ça, je ne vous parle pas.
Si vous voulez qu'on trouve des solutions, on va essayer d'en trouver.
Oui.
Mais c'est après qu'il faut crier.
Enculé !
Qu'est-ce qu'a dit ça ? C'est toi qui a dit ça ? Bah descends, on peut le dire. Descends. Si tu crois que c'est en insultant que tu vas régler le problème des pêcheurs, eh ben préfère-moi te dire. Viens.
Heureuse de bruit et de fureur, on vous propose une balade. Une balade dans un monde à la dérive. Une balade à l'arrache, sur le coup, sans but, ni destination précise. On ira là où ça gueule, où on se marre, où on chiale, où ça se passe, ou pas. On prendra la route, mais surtout le temps, comme on pourra. On prendra des raccourcis et des longueurs aussi. Les trottoirs avec ou sans micro. Les sens interdits pour ne pas finir dans une impasse. Évitez les embouteillages et les heures de pointe. Une émission qui prend la parole et la donne aussi. Parler de tout, mais pas avec n'importe qui. Une voix qui résonne et qui appelle, on l'espère. Dans tous les cas, si vous êtes là avec nous, on vous embarque pour une émission pleine de bruit et de fureur.